Chapitre 9. Le chef. Raoul baissa la tête. Il se souvenait. Dans la première partie de sa vie aventureuse, cet Auguste Delron avait été un de ses complices les plus actifs et qu'il mêlait sans défiance à beaucoup de ses entreprises les plus secrètes. Depuis l'affaire de la présidence du conseil, il n'avait plus entendu parler de lui. Et voilà qu'Auguste Delron était devenu Barthélemy et qu'il avait monté toute cette machination à l'encontre de son ancien patron. Devant l'attitude de Raoul, Thomas Le Bouc redoubla d'audace. Victorieux, il déclara « C'est 200 000 maintenant, pas un sou de moins !» Et, plus familier, d'un ton condescendant, il expliqua « Tu comprends bien, n'est-ce pas? Tu refusais de casquer quand il s'agissait de toi. Mais quand il s'agit de ton fils, bigre, c'est autrement délicat. Or, si tu ne me verses pas 300 000, je dis 300 000, ça vaut bien ça. Je dévoile au juge d'instruction des détails irrécusables sur le passé de Félicien. Et je démontre par A plus B qu'il est le fils de Raoul d'Averny. C'est-à-dire, n'est-ce pas, le fils d'Arsène Lupin. Un joli coup double, hein? D'Averny, c'est Lupin. Et Félicien, c'est le fils de Lupin qui, sous le nom de baron de Limésie, avait épousé mademoiselle...
Tais-toi! Je te défends de prononcer ce nom-là.
Mais ce nom-là, Raoul le prononçait au fond de lui. Et toute l'aventure tragique ressuscitait dans son esprit. L'amour frais et charmant qu'il avait eu pour Clarisse Détigue, puis sa passion effrénée pour Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro, créature impitoyable et barbare. Puis après des luttes sauvages, son mariage avec Clarisse Détigue. Le dénouement, 5 ans plus tard, un enfant leur naissait, régulièrement inscrit sur les registres de l'état civil sous le nom de Jean de Limésie. Et le surlendemain de sa naissance, la mère étant morte en couche, l'enfant disparaissait, enlevé par les émissaires de la comtesse de Cagliostro. Était-ce ce Jean de Limésie que la terrible créature, génie de la haine et de la vengeance, avait confié un jour à la fermière du Poitou? Ce Jean, qu'il avait tant cherché en souvenir de la douce Clarisse Détigue, était-ce le Félicien équivoque et ténébreux, venu chez lui pour comploter contre lui? Était-ce son fils, son propre fils, qu'il avait fait jeter en prison?
Je croyais que la Cagliostro était morte.
Et après? L'enfant n'est pas mort, lui, puisque c'est Félicien.
Tu as des preuves?
La justice en trouvera.
Tu as des preuves?
Ah, il y en a. Et des plus formelles que Barthélemy avait réunies, patiemment. Tu vois ça d'ici, n'est-ce pas? C'était le grand coup de sa vie au bonhomme. Ayant placé l'enfant chez toi, il tenait entre ses griffes. Ce que je viens de faire aujourd'hui est pour mon compte, avec quelle âpre joie il se proposait de le faire lui-même et de venir te jeter à la face. Sauve-moi de la misère, ou je vous livre à la justice, toi et ton fils. Toi et ton fils.
Tu as des preuves, redit Raoul pour la troisième fois.
Barthélemy m'a montré un jour la pochette où il les avait réunis après l'enquête qu'il a poursuivie durant des années.
Où est-elle, cette pochette?
Je suppose qu'il l'a remise à une maîtresse qu'avait Simon, une Corse avec qui il s'entendait bien.
On peut la voir, cette femme?
Difficilement. Je ne l'ai pas revue depuis sa mort à lui. Mais j'ai idée que la police la cherche.
Raoul se tut assez longtemps. Puis il sonna son domestique.
Le déjeuner est prêt?
Oui, monsieur.
Mettez un couvert de plus.
Il poussa Le Bouc devant lui, dans la salle à manger.
« Assieds-toi. »
L'autre, décontenancé, se laissa faire. Il était persuadé que le marché était conclu, et il n'hésitait plus que sur le chiffre qu'il avait bien envie de fixer à 400 000 francs. Raoul d'Averny, effondré sous l'attaque imprévue, ne lésinerait pas.
Raoul mangea peu. S'il n'était pas effondré, comme le supposait son adversaire, il était fort soucieux. Le problème lui paraissait affreusement complexe, et il le retournait en tous sens avant de s'arrêter à telle solution. Double problème, d'ailleurs, et par conséquent, double solution. Il y avait une solution à trouver en ce qui concernait Félicien, et une solution plus proche à trouver pour faire face à la très grave menace de Thomas Lebouc. Ils passèrent dans le bureau. Une demi-heure encore de silence. Lebouc, étendu sur un fauteuil, fumait voluptueusement un gros cigare qu'il avait choisi dans une boîte de Havane. Raoul allait et venait, les mains au dos, pensif. À la fin, Lebouc formula
« Tout bien pesé, je ne céderai pas à moins de 500 000 francs. Bon, c'est le prix raisonnable. Et remarque du reste que mes précautions sont prises. Au cas où tu me jouerais un mauvais tour, la lettre de dénonciation serait jetée à la poste par un copain. Donc, rien à faire. T'es coincé dans l'engrenage. »
« Ah, marchand de pain, hein. 500 000. Pas un sou de moins. » Raoul ne répondit pas. Il semblait calme et beaucoup moins absorbé, comme un homme qui a pris sa décision et que rien ne fera dévier. Au bout de 10 minutes, il consulta la pendulette de sa table. Puis il s'assit devant le téléphone. « La préfecture de police, veuillez me donner le cabinet de Monsieur Rousselin. » « Ici Raoul d'Averny. C'est vous, monsieur le juge d'instruction ?»« Très bien, je vous remercie. »« Oui, il y a du nouveau. J'ai chez moi, sous la main, un individu qui a participé de façon active au drame du Vésiné. Non, il n'a pas encore fait d'aveu, mais sa situation est telle qu'il sera contraint d'en faire. »« Allô ? Oui, c'est cela même. Et le mieux est que vous l'envoyez cueillir. » Par l'inspecteur principal Gousseau. Oh, très bonne idée. Oh, ne craignez rien, il ne m'échappera pas. Il est couché par terre, ligoté. Merci, monsieur le juge d'instruction. Thomas Lebouc avait écouté avec une stupeur croissante. Il était livide, méconnaissable. Et il bégaya. Mais t'es fou? Qu'est-ce que ça veut dire? Me livrer, moi? Mais c'est te livrer en même temps et livrer Félicien. Raoul ne paraissait pas entendre. Il avait agi et il continuait d'agir, comme si Thomas Lebouc n'était pas là, et comme s'il obéissait à un plan de conduite à propos duquel Thomas Lebouc n'avait aucun rapport. Tout cela concernait Raoul d'Averny, et non pas Thomas Lebouc. Celui-ci, hors de lui, exhiba son revolver, l'arma et visa.
« Les fous, il n'y a qu'à les abattre !»
Mais il ne tira pas. Ce n'était point en abattant d'Averny qu'il atteindrait son but et palperait de l'argent. Et d'ailleurs, était-il admissible que Raoul d'Averny se jetât lui-même au feu pour avoir le plaisir d'y jeter en même temps le bouc ? Non. Il y avait bluff, ou malentendu, ou erreur. Et en tout état de cause, on disposait d'une bonne demi-heure pour s'expliquer.
Bien joué, Lupin. Ah, décidément, hein. T'es pas au-dessous de ta réputation, de ce que m'a raconté Barthélémy. Oh, crée bon sang. Oh, la jolie riposte. Mais ça prend pas avec moi. Ben voyons, réfléchis, Lupin. En admettant même que tu me livres, tu ne livres qu'un type qui a voulu faire chanter un de ses semblables. En l'occurrence, Arsène Lupin. Le dindon de la farce, ce serait toi. Car enfin, tu ne connais même pas. Et pourquoi supposes-tu que j'ai quelque chose à redouter de la police, moi? Mais je suis blanc comme neige. Pas une peccadille à me reprocher.
Alors pourquoi es-tu vert? Pourquoi louches-tu vers la pendulette?
Mais pas plus que toi, mon vieux. Et je te répète que je suis un honnête homme.
Retourne-toi, honnête homme. Prends cette clé et ouvre ce secrétaire. Bien. Tu vois un fichier sur ce rayon? Passe-le-moi. Merci. J'ai comme ça un certain nombre de fichiers qui sont toujours au point
ou à peu près.
Ta fiche est dans celui-ci.
Raoul chercha tout en énumérant les initiales successives.
PQRST. Ah, nous y sommes. Tu dépends de la case T. La case T?
Évidemment. Je t'ai classé comme Thomas.
Il saisit son fichier et lut à haute voix.
Thomas le Book, c'est-à-dire Thomas le Bookmaker. Taille 1m75, tour de poitrine 95, moustache en brosse, front dégarni, expression vulgaire, parfois bestiale. Domicile, rue Ardevaux, 24, à Grenelle, au-dessus d'une charcutière dont il est l'amant. Odeur préférée, lilas blanc, dans sa commode, de caleçon soie bleu ciel, 4 paires de chaussettes idem.
Nous sommes d'accord, Thomas le Book ?
Thomas le considérait d'un œil ahuri.
Je continue. Le dénommé Thomas le Book était le frère du rapin Simon Lorient, et tous deux étaient les fils du vieux Barthélemy, le cambrioleur de l'Angerie.
Thomas le Book se dressa.
Qu'est-ce que ça veut dire ? En voilà des ragots !
Des vérités, que la police confirmera dans la perquisition qu'elle ne tardera pas à faire. Soit à ton domicile, soit chez ta charcutière, soit au Zanzibar, dont tu es un assidu.
Et après ?
S'écria le Book, qui tâchait de crâner encore, malgré son désarroi.
Après ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?
T'imagines-tu qu'il y ait là de quoi me condamner ?
Mais il y a de quoi te coffrer, tout au moins.
En même temps que toi, alors ?
Non. Car tout ça, ce n'est que la partie superficielle et insignifiante du casier judiciaire que je t'ai préparé pour la justice et que nous laisserons sur cette table jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur principal Gousseau. Mais il y a mieux.
Quoi ?
Il y a ta vie secrète. Il y a certains détails, certains actes que tu as commis et vers lesquels il me sera facile d'aiguiller la police. J'ai tous les éléments.
Thomas le Book manipulait son revolver d'une main crispée. Il reculait peu à peu vers la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin près du garage. Et il bredouillait
des bobards, des trucs à la Lupin. Pas un mot de vrai, pas une preuve.
Raoul s'approcha de lui et cordialement,
laisse donc ton Browning et ne cherche pas à t'enfuir.
On ne se querelle pas.
On cause, et nous avons encore 15 bonnes minutes.
Écoute, c'est vrai, je n'ai pas encore eu le temps de réunir de véritables preuves.
Mais ce sera un jeu pour Gousseau et ses collègues d'en découvrir.
Et puis, il y a quelque chose de nouveau. Hein ?
Tu devines à quoi je fais allusion. 3 jours seulement, et ce n'est fichtre pas une peccadille.
Thomas le Book blêmit. Le crime était trop récent pour qu'il n'en gardât pas le souvenir épouvanté. Et Raoul précisa
« Tu ne l'as pas oublié, ce brave garçon, qu'on nommait le gentleman et que l'agence qu'il employait avait chargé d'une enquête pour moi.
Or, comment se fait-il que tu aies pris sa place pour venir ici ?»«
C'est sur sa demande. » »«
Ce n'est pas vrai. J'ai téléphoné à l'agence. »
On ne l'a pas vu depuis plusieurs jours.
Tiens, depuis dimanche soir.
Alors je me suis mis en chasse et j'ai abouti au Zanzibar, ton quartier général. Le dimanche dans la nuit, vous êtes sortis ensemble, fort éméché. Depuis, pas de nouvelles.
Et ça ne prouve pas...
Si.
2 témoins t'ont rencontré sur le quai, en sa compagnie.
Et après ?
Après ?
On vous a entendu le long de la Seine.
Vous vous battiez.
Le type a crié au secours.
Ces témoins, j'ai leur nom.
Le Book ne protesta pas. Il aurait pu demander pourquoi ces invisibles témoins n'étaient pas intervenus et n'avaient même pas signalé leur présence. Mais il ne pensait plus à rien. Il était haletant de peur.
Alors, n'est-ce pas ? Reprit Raoul, qui ne le laissait pas respirer.
Il faudra expliquer à ces messieurs ce que tu as fait de ton compagnon et comment il s'est noyé.
Car il s'est bien noyé.
On a retrouvé son cadavre hier soir.
un peu plus loin, le long de l'île aux cygnes. Le bouc s'épongeait le front avec le revers de sa manche. Sans aucun doute, il évoquait la minute effrayante du crime, la vision de l'ivrogne qui dégringolait, se débattait et disparaissait dans l'eau noire. Pourtant, il essaya d'objecter. « On sait rien. On n'a rien vu. »« Peut-être, mais on saura. » Le gentleman avait prévenu son patron et ses camarades de l'agence. Il leur avait dit le matin même, « S'il m'arrive malheur, qu'on interroge un nommé Thomas Lebouc. Je me méfie de lui. On le trouvera aux Zanzibars de Grenelle. » Et c'est en effet là que j'ai retrouvé tes traces. Raoul sentit l'écrasement de son adversaire. Toute résistance était finie. Thomas Lebouc subissait son emprise totale et définitive. Et réduit à l'impuissance, incapable de réfléchir et de comprendre où Raoul le menait par la force impérieuse de sa volonté, il était mûr pour l'acceptation irraisonnée de tout ce qu'on lui commanderait. Il n'y avait pas là seulement l'angoisse du criminel, mais surtout la déroute d'un être devant un autre être qui ordonne devant un chef. Raoul lui mit la main sur l'épaule et le contraignit à s'asseoir. Il lui dit, avec une mansuétude cordiale, « Tu ne te sauveras pas, n'est-ce pas? Mes domestiques sont là qui te guettent. Crois-moi, avec Lupin, rien à faire. Tandis que si tu m'écoutes, tu peux t'en tirer, et dans d'excellentes conditions. Seulement, il faut m'obéir, et sans rechigner. Du courage et de la franchise. Réponds. Pas de casier judiciaire? Non. Pas de sale histoire de vol ou d'escroquerie? Aucune qui a été connue. Personne ne t'a soupçonné et personne ne pourra jamais t'accuser? Non. Pas de fiche anthropométrique au service de l'identité? Non. Tu le jures? Je te le jure. En ce cas, tu es mon homme. Dans quelques minutes, Gousseau et ses acolytes vont arriver. Tu te laisseras prendre. » Le bouc se rebiffa, terrifié, les yeux hagards. « Tu es fou ? » « Qu'est-ce que ça peut te faire d'être pris par la police, puisque tu es déjà pris par moi, ce qui est beaucoup plus grave ? Tu changes de main, voilà tout. Et tu me rends service. »« Je te rends service ?» fit Thomas le bouc, dont l'œil s'alluma. « Évidemment. Et un service de ce calibre-là, ça se paye. Et cher. » « Comment ? Mais il n'y a qu'un moyen pour moi de savoir si Félicien est mon fils, c'est de l'interroger. Il faut que je le voie à tout prix. Et puis quoi ? S'il est mon fils, tu t'imagines que je vais le laisser en prison ? Pas de remède à ça. Si. Ils n'ont que des présomptions. Rien de solide. Ton arrestation et tes aveux vont démolir tout leur système d'accusation. Et quels aveux ? Que faisais-tu durant la journée où le vieux Barthélemy cambriolait et durant la nuit où ton frère Simon a été blessé? D'accord avec eux, j'avais loué une camionnette et j'attendais près de Chatou au cas où ils auraient eu besoin de moi. Vers minuit et demi, pensant qu'ils étaient rentrés chez eux par d'autres routes, je suis parti. Bien. L'heure de ton retour, tu peux l'approuver? Eh oui, puisque j'ai remis la camionnette à son garage et que j'ai causé avec le gardien de nuit. Il était un peu plus d'une heure du matin. Parfait. Eh bien, tu diras tout cela exactement à l'instruction. Tu diras que tu as attendu près de Chatou, mais que avant minuit, tu entends. Avant minuit, inquiet, tu es venu rôder dans le Vésinet, du côté de l'orangerie. Qu'ensuite, tu as suivi l'impasse qui aboutit à l'étang. Que tu as pu attirer la barque. Et que tu as été voir ce qui se passait devant l'orangerie. N'apercevant ni le vieux Barthélemy, ni Simon, ne les ayant pas rencontrés non plus dans les avenues, tu as rejoint ta camionnette. Un point, c'est tout. Thomas Lebouc avait écouté attentivement. Il hocha la tête. « Très dangereux. On m'accusera d'avoir été complice. Et réfléchis, et parler de l'orangerie et de cette balade en barque... C'est dire que j'étais au courant de l'affaire. Complicité passive,
6 mois de prison. L'essentiel pour toi, c'est que tu puisses démontrer qu'au moment où ton frère et Jérôme Elmas ont été attaqués, tu étais, toi, de retour à Paris.
Oui, mais je m'en tirerai pas à moins de 2 ou 3 ans. Et Félicien, lui, sera élargi.
Justement, dès l'instant où l'instruction ne sera plus certaine que c'était Félicien qui a été vu dans la barque, et qu'elle pourra croire que c'est toi qui rôdais autour de l'orangerie pour chercher les billets de banque, les présomptions, déjà fragiles, que l'on a réunies contre Félicien, s'effondreront. Après une hésitation dernière, le bouc déclara
« Soit. Seulement. »«
Seulement ?»«
Tout dépend du prix. Je risque beaucoup plus que tu ne crois. »«
Ainsi seras-tu payé beaucoup plus que tu ne vaux. » »«
Et combien ?»«
100 000 le jour où Félicien sera élargi. » 100 000 le jour de ta libération. Tu toucheras les 2 sommes d'un coup. »
Les yeux de Le Bouc clignotèrent. Il balbutia.
« 200, c'est un chiffre. »
« C'est de quoi être honnête. Avec ça, tu pourras t'acheter une charcuterie en province ou à l'étranger.
Et puis tu sais, un engagement de Lupin, ça vaut la signature de la Banque de France. » J'ai confiance. Seulement tout de même, il peut y avoir des complications.
Lesquelles ?
Admettons qu'on réussisse à découvrir certaines choses de mon passé et qu'on m'envoie au bagne.
Je te ferai évader.
Impossible.
Idiot. Et ton père, quand il était huissier à la présidence et que je l'ai eu dénoncé, ne l'ai-je pas fait évader en plein Paris ? Et au jour même annoncé par moi, publiquement.
C'est vrai. Mais t'auras assez d'argent.
Enfant.
Et ça coûte cher, une évasion.
T'en fais pas.
Et 1 000 et 100. Le prix de l'évasion et l'indemnité que tu m'as promise, c'est beaucoup. Es-tu sûr ?
Retourne-toi de nouveau. Glisse la main au fond de mon secrétaire, sur la même tablette que le fichier. Ça y est ? Thomas Le Bouc obéit et attira un petit sac de toile grise. Qu'est-ce que c'est ?
Le sac de toile grise.
Regarde, j'ai fait une entaille dans la toile. Tu vois les liasses de billets ? Ce sont les billets de l'oncle Gavrel que le vieux Barthélemy avait déniché dans l'orangerie. Le bouc vacilla et tomba assis sur une chaise.
Nom de Dieu ! Quel bougre que ce type-là !
Faut bien vivre et aider les camarades dans l'embarras.
Mais comment as-tu pu ?
Facile. En arrivant le lendemain matin, j'ai pensé aussitôt que Simon Lorient avait dû retrouver le sac dans le jardin ou ailleurs, et qu'on avait peut-être essayé vainement de le lui reprendre. J'ai tout de suite couru là où il avait été blessé. Je ne me trompais pas. Le sac avait roulé dans l'herbe assez loin, et personne ne l'avait remarqué.
Je n'ai pas voulu qu'il fût perdu.
Thomas Le Bouc fut abasourdi, et il prononça, renonçant au tutoiement irrespectueux.
« Ah, vous êtes bien le chef !»
En un geste spontané, il tendit ses 2 poings.
« L'auto de la police va pas tarder. Ligotez-moi, chef. Et vous avez raison, je suis votre homme. Où le père a passé, le fils passera également. Oh, mais faut-il que nous soyons bêtes pour nous être attaqués à vous ?
Il est de fait. Ton père était pourtant un brave homme, jadis. Et je suis d'autre part qu'il avait tenté l'impossible pour redevenir honnête.
Oui, mais il y avait cette affaire de Félicien qui le tracassait. Simon l'a obligé à la reprendre, de même que Simon l'a obligé à tenter par surcroît le coup de l'orangerie. Un vol, soit, j'accepte, a-t-il dit. Un chantage, soit, ça m'amuse, nous serons riches après. Mais pas de crime, hein ?
Et cependant, il a tué. Il a étranglé Elisabeth Gavrel.
Et voulez-vous que je vous dise mon opinion, chef ? Eh ben, le vieux a tué sans le vouloir. Et mieux que ça, il n'a couru après la fille que pour la sauver, alors qu'elle était tombée à l'eau. Oui, pour la sauver. Le vieux était capable de ces emballements-là. Mais en la sortant de l'eau, il a vu le collier de perles et il a perdu la tête.
C'est mon avis.
On entendait l'auto. Il reprit « Surtout, ne lâche pas le véritable nom de ton père. » Cette vieille histoire de la présidence du conseil, mêlée à l'histoire d'aujourd'hui, ramènerait l'attention sur Lupin. Et je n'y tiens pas. Ma situation dans toute cette affaire est déjà assez difficile. Donc, sois prudent. Ne t'écarte pas d'une ligne de la version que nous avons adoptée. Pas un mot en dehors de cela. Dans le doute, il n'y a pas de meilleure réponse que le silence. Et compte sur moi, mon vieux. » Il s'approcha de lui et d'un ton amical. « Un mot encore. Ne te fais pas trop de bile à propos du gentleman que tu as tué. »
« Ah, et pourquoi ?»«
C'était moi, le gentleman. » Thomas Lebouc s'abandonna aux mains de l'inspecteur Gousseau dans une sorte d'extase. L'escamotage du sac de toile grise, l'audace et la perfection avec lesquelles Lupin avait joué le rôle du gentleman, la joie imprévue d'apprendre que lui, Thomas Lebouc, n'avait pas tué, tout cela le soulevait d'allégresse. Qu'avait-il à craindre avec un pareil protecteur? Arrivé au clair-logis pour bouleverser tout, il s'en allait en prison, comme un homme qui a remporté la plus belle victoire et qui s'apprête à doubler cette victoire en roulant la justice et en rendant service à son bienfaiteur.
« Tous mes compliments, monsieur Daverny !»
dit à Raoul l'inspecteur Gousseau, qui rayonnait de plaisir.
« Alors, ce client-là est mêlé à notre affaire ?»
Et comment? C'est un des frères de Simon Lorient.
Hein? Quoi? Son frère? Mais par quel prodige l'avez-vous capturé?
Oh, je n'y ai pas grand mérite. L'imbécile s'est fait prendre lui-même.
Que voulait-il?
Me faire chanter.
À quel propos?
À propos de Félicien Charles. Il est venu me dire qu'il avait la preuve que Félicien Charles, complice de son frère Simon Lorient, avait tué Simon pour lui voler le sac de toile grise. Et il m'a demandé la forte somme si je voulais que le secret fût gardé. En réponse, j'ai téléphoné à M. Rousselin. Cuisinez-le, monsieur l'inspecteur principal, et je suis persuadé que vous obtiendrez des aveux dont vous aurez le profit et la gloire. Sur le seuil de la porte, Thomas Lebouc, entraîné par le policier, se retourna vers Raoul et affectant la colère et la rancune.
« Vous me paierez ça, mon bon monsieur !»«
Entendu ! Et avec les intérêts !»
Le bouc sortit en sifflotant. Raoul écouta le pas des hommes qui s'éloignaient. L'auto démarra. Contrairement à son habitude, il n'eut pas un seul de ces gestes par quoi se manifester sa joie de triompher. Et pourtant, quel joli succès que d'envoyer Thomas Lebouc en prison. Mais non, il demeurait taciturne et absorbé. Il songeait à Félicien, enfermé dans une cellule. Était-ce son fils? Réussirait-il à le délivrer? Et qu'était-ce que ce fils équivoque, complice sournois de Barthélemy et de Simon Lorient?